France Culture.
Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi?
Bonjour, très heureux de vous retrouver en ce premier dimanche de septembre sur France Culture pour une nouvelle saison de Solae, le rendez-vous protestant, votre magazine proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau. Aujourd'hui, et avec Vincent Smetana pour son « Toujours le mot pour dire », nous recevons une invitée dont le film bouleverse et interroge. Elle s'appelle Marie-Hélène Roux, elle est réalisatrice et elle signe un long métrage de fiction, Muganga, celui qui soigne, qui sortira le mercredi 17 septembre. Ce film raconte librement la figure du docteur Denis Mukwege, gynécologue congolais, prix Nobel de la paix, défenseur inlassable des femmes victimes de violences sexuelles, mais aussi pasteur protestant. Un film porté par deux grands acteurs, Isaac de Boncollé dans le rôle principal et Vincent Macaigne à ses côtés pour incarner le chirurgien belge Guy Cadière, qui va redonner un souffle nouveau à l'engagement de cet homme qui a choisi de soigner les âmes et les corps. Une œuvre de cinéma qui fait le pari de la fiction pour approcher au plus près la vérité intérieure. Marie-Hélène Roux est mon invitée. Bienvenue.
Cette violence est volontaire, planifiée, dans le but de terroriser les populations et avoir ainsi le champ libre pour l'exploitation illégale de minerais tels que le coltan. Composant indispensable à la fabrication de nos téléphones portables, de nos ordinateurs. En 12 ans, l'hôpital de Panzi que je dirige a pris en charge plus de 30 000 femmes violées avec une brutalité inouïe. Celles qui s'en sortent vivantes arrivent à l'hôpital dans un état de destruction physique et psychique indescriptible, avec le plus souvent l'appareil génital détruit. Sire, comment se réjouir des honneurs alors qu'au moment où je vous parle, des milliers de femmes sont encore prisonnières de leurs bourreaux qui circulent en toute impunité? Comment se réjouir des honneurs quand les estimations parlent de plus de 1100 femmes violées chaque jour? 1100 femmes. Comment pouvons-nous accepter cela?
Marie-Hélène Roux, bonjour.
Bonjour.
Nous venons d'entendre un extrait de votre film, un extrait sonore. On est plutôt dans le début du film,
dans
là.
Dans le début, tout à fait.
Pourquoi avoir choisi la fiction plutôt que le documentaire pour évoquer Denis Mukwege?
Parce que je crois que la fiction permet autre chose. Elle permet d'abord une identification, une personnification. Elle me permet à moi de choisir, en fait, que ce soit au niveau d'un angle, de choisir le moment d'une rencontre, notamment dans ce film. Elle permet aussi de choisir sur le plan artistique un cadre, une lumière. Elle permet de travailler avec des comédiens, parce que moi,
Vous aimez ça.
J'aime ça. Et elle permet, oui, d'être un peu le chef d'orchestre ou la chef d'orchestre de tout cela et d'avoir de choisir un point vraiment où l'on fait se rencontrer tous ces êtres.
Alors justement, vous le dites, c'est une rencontre dans ce film qui nous est proposée, celle de deux hommes. On n'est pas dans un biopic au sens classique du terme qui raconterait l'histoire entière d'un personnage. Vous vous fixez sur une période très courte, en fait, avec cette rencontre entre ces deux médecins. Comment avez-vous construit ce récit et en quoi le personnage est-il inspiré, mais aussi un peu distancié par rapport à Denis Mukwege?
En fait, face à la richesse des protagonistes, non seulement docteur Mukwege, mais le docteur Cadière, moi, ce qui m'intéressait avec mon co-auteur, Jean-René Lemoine, c'était de choisir un moment et de pouvoir, à travers ce moment, développer les autres personnages. Parce que je voulais que les femmes aussi aient leur place. Et ça permet, en fait, aussi par le biais de l'équipe du docteur Cadière, donc l'équipe belge, d'aller à Panzi et de regarder cette situation avec un regard vierge, extérieur. Et ce questionnement que moi j'ai pu avoir, que tout à chacun peut avoir quand il ne connaît pas cette situation, et ben ça me permet de pouvoir adresser des choses que je n'aurais pas pu si on avait choisi un biopic purement. Mais aussi ça permet une distanciation et pour nous, il était important de pouvoir comment imprégner le film de ce qu'on a envie de dire, nous aussi, de dépasser le réel et dépasser le personnage du docteur Mukwege.
Alors, c'est un projet sur lequel vous travaillez déjà depuis longtemps, une dizaine d'années, je crois.
Oui, la rencontre avec le sujet, avec le docteur et Guy Bernard Cadière, était en 2014, donc 4 ans avant qu'il soit le prix Nobel de la paix, qu'il ait reçu
Denis Mukwege.
Denis Mukwege, oui. Et c'était en 2018. Et quand moi, j'ai appris, d'abord, je me suis trouvée face à mon ignorance. Ouais. Et pourtant, je suis née au Gabon. J'ai vécu dans plusieurs pays d'Afrique, le Burundi, la Bangui, la République centrafricaine. Et j'ai vu dans ce livre qu'ils avaient écrit conjointement, j'étais face à ce qu'il y a de meilleur dans l'humanité et aussi de plus douloureux, de ce qu'il y a de pire. Et là, j'ai tout de suite été bouleversée dans les deux sens, vraiment. Et j'en ai parlé à ma productrice, Cynthia Pinet, et je me suis dit, mais là, il faut faire un film. Enfin, je crois que l'art peut jouer son noble rôle et aller mettre la lumière sur ce qui se passe.
Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous a interpellé, alors peut-être chez les deux, autant Guy Cadière que Denis Mukwege?
Leur force de conviction. Se dire que, en dépit de tous les obstacles qu'ils font face chaque jour, et surtout le docteur Mukwege, et les menaces, et la cruauté de la situation, la souffrance des femmes, ils croient en l'humain. Ils croient que c'est qu'ensemble, avec l'autre, qu'on peut faire une différence, au-delà de leurs différences. Et c'est ça qui, pour moi, que j'ai trouvé extraordinaire, c'est cette force de vie et cette force de croire en... Ils le disent, ça fait un petit peu... comment dire, à l'eau de rose un petit peu, de dire croire en l'amour, mais je crois, c'est ce qu'il croit en tout cas.
Pour nous immerger un peu plus dans ce film, alors sans les images évidemment puisqu'on est à la radio, mais avec le son, encore un extrait de Muganga.
C'est miraculeux cette technique.
Ouais, il n'y a pas que Dieu qui fait des miracles. Hein.
Pourquoi il tue pas ces femmes? Pourquoi il les laisse en vie?
Parce qu'une morte ne parle pas. Toutes ces atrocités se déroulent autour des mines. Le but, c'est de chasser les populations. Et quelle arme plus efficace que la peur?
Et les gens se rebellent pas?
Quand vous avez tout perdu, comment est-ce que vous vous battez? Pour qui vous vous battez?
Muganga, celui qui soigne, en salle le 17 septembre. Et je suis ce matin avec la réalisatrice Marie-Hélène Roux. Le film ne cache pas, évidemment, la violence du contexte du Congo, dans les mots, mais aussi dans certaines images, nécessairement. Elle est très précisément visible, mais sans excès non plus. De même avec ce que l'on qualifie généralement de pathos, le côté larmoyant, que l'on peut avoir parfois dans certains films. Il y a de l'émotion, certes, dans Muganga, mais sans en rajouter non plus. Une forme d'équilibre. Alors là, je parle en tant que spectateur, ayant vu le film. Cette violence, ces émotions, comment vous les avez gérées?
C'était là toute la difficulté d'aborder un tel sujet, de le retranscrire. C'est qu'on puisse, je crois que l'émotion permet l'action. Donc qu'on puisse comprendre cette situation, mais d'en être ému et dans, aussi bien dans le positif que dans le négatif. Dans le positif, j'entends par là, par la force de vie, par la force de conviction, par l'engagement de ce docteur, de ces docteurs, et qu'on puisse, oui, on ne peut pas être indifférent face à cette souffrance. Et moi, je crois beaucoup en mon maître de théâtre me disait, Dominique Levert, suggérer, c'est créer, montrer, c'est détruire. Et je crois qu'il faut que le spectateur puisse faire un chemin. Nous, en tant que cinéaste, on emmène dans une direction et qu'il y a un point de rencontre. Et ce qui m'intéressait, c'était la vérité au niveau émotionnel de ces femmes, de leur vécu, d'aller capturer comme un peu un chirurgien va au plus proche avec son microscope, regarder les éléments. Moi, je voulais qu'on aille au plus proche de l'intime, capturer les émotions, aussi autant dans la joie que dans la douleur, et qu'on puisse tout de suite rebondir, parce qu'en fait, c'est la réalité aussi. C'est cette force qui vient d'un... où on la puise, d'un ailleurs, de sa foi ou autre. Mais en tout cas, c'était cette balance j'espère qu'on ait réussi, oui. On a réussi à la faire.
Alors, on va reparler de l'aspect spirituel aussi, qui est... bien sûr, avec le docteur Mukwege. Mais avant, j'aimerais bien qu'on évoque le casting. On parlera des comédiennes. Mais là encore avant, il y a ces deux acteurs, Isaac de Bancolé et Vincent Macaigne. Comment s'est fait le choix pour ces deux acteurs ?
Le choix a été d'abord une évidence, dans le sens où d'abord, c'est bien sûr, j'ai approché Isaac de Bancolé, parce que pour moi, Isaac de Bancolé a... Il a une noblesse, il a une élégance, il a une droiture, il a quelque chose qui pour moi était très évocateur des qualités et de ce que j'ai ressenti quand j'ai rencontré le docteur Mukwege. Il aime travailler, j'ai pu beaucoup travailler avec lui et il a rencontré le docteur Mukwege par ailleurs. Donc c'était pour lui, j'ai senti vraiment un engagement, que c'était pas un rôle de plus, mais vraiment, il faudra lui en parler, ça a été pour moi, quand on rencontre le choix, comme une évidence. Et puis, quand on avait le docteur Mukwege, il fallait, face à lui, pour que le duo fonctionne, quelqu'un qui représente une fantaisie, qui représente bien sûr. Une force de conviction. Mais Vincent Macaigne a non seulement quelque chose d'émotionnel et instinctif, qui fait qu'en fait, cette balance, elle fonctionne. Pour moi, elle fonctionnait très bien et il fallait
fraîcheur.
Que ça. Voilà.
D'ailleurs, on retrouve souvent Vincent Macaigne dans des rôles un peu décalés.
Ouais.
Et alors là, même s'il incarne ce chirurgien, oui, il y a cette fraîcheur qui émane. Dans le petit extrait, c'est un petit clin d'œil sur le miracle qui ne vient pas que de Dieu, mais aussi dans la pratique de la chirurgie, finalement. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça qui amènent un peu de fraîcheur dans un sujet quand même profondément lourd et difficile.
Oui, il emmène des respirations qui sont nécessaires. Il emmène une fantaisie et même, j'ose dire, de l'humour. Oui, et on en a besoin. Et c'est ce qu'il fallait balancer, contrebalancer toujours.
Et puis, il y a de magnifiques comédiennes, au sens complet du terme, d'ailleurs. Je pense, par exemple, à Manon Brèche, que l'on avait vue dans Voleuse, Déborah Lukumwena, dans Divine, Robuste, Les Invisibles.
Oui, il y a Babetida Sadjo, qui représente toutes ces femmes, qui est symbolique un peu de toutes les survivantes.
Oui.
Et plein d'autres, on ne va pas toutes les mentionner, non. Malheureusement.
Une rencontre donc entre deux hommes, mais où les femmes sont déterminantes, en fait.
Comme le dit le docteur Mukwege, en fait, la réparation, la guérison, elle se fait ensemble. Il le dit souvent, il dit quelque chose comme « je les relève, mais grâce à elles, je tiens debout
».
Et je pense que quand j'ai été là-bas à Panzi, je me suis rendu compte que c'était un collectif. Et ce film, pour moi, il était important qu'on ait aussi cette dimension chorale.
Marie-Hélène Roux, nous allons entendre un court extrait maintenant d'une allocution, alors cette fois-ci, de Denis Mukwege, directement, sur le thème « Conviction et engagement d'un homme dans les détresses de l'humanité ». C'était le samedi 30 novembre 2019, à la mairie de Paris, en présence d'Anne Hidalgo, un colloque organisé par la Fédération protestante de France.
« Je n'ai pas vu Dieu dans une église, ni dans une cathédrale. » ni dans les palaces dorés. J'ai vu Dieu dans les yeux de cette petite fille, Monique. Cette petite fille victime de violences sexuelles commises avec extrême barbarie, alors qu'elle avait seulement 12 ans. Elle est arrivée à l'hôpital dans un état de destruction extrême. Personne ne pouvait s'approcher d'elle. Elle attendait sa mort, abandonnée par tout le monde. Après 9 opérations, certes, elle n'aura plus droit à la maternité, mais elle vit. Et je dois vous dire que quand je la vois, elle est rayonnante de joie. Elle a même entrepris des études d'infirmière. Et quand je lui ai posé la question, « Pourquoi avez-vous choisi de faire l'école d'infirmière ?» Elle m'a dit, « Docteur, tous les médecins, les infirmiers, les corps soignants, ils ont fait beaucoup pour moi. Je souhaiterais également faire du bien à quelqu'un qui souffre. Quand je cherche Dieu, je le cherche dans le visage de l'humain. » Quand je vous regarde, je veux voir Dieu dans vos paroles. Je veux voir Dieu dans votre façon de faire. Et quand je vois cette petite fille qui a tant souffert, elle avait perdu son père et sa mère. Ils ont été exécutés, tués en sa présence. Mais elle continue à croire dans l'homme. Elle continue à croire qu'elle peut changer la vie de quelqu'un. n'ayant pas de famille, il a choisi de venir vivre avec nous à l'hôpital. Mais à chaque fois, quand je vois comment elle prend soin des autres, à travers elle, je vois Dieu.
Une autre phrase qui accompagne la communication autour de la sortie du film, justement, elle est extraite cette fois-ci d'un discours du docteur Mukwege, l'année passée à l'occasion de la Journée internationale des femmes. Il dit « Les femmes et les jeunes filles que nous aidons ne se définissent pas par la violence qu'elles ont subie, mais par leur force et leur courage inébranlable. » Alors je me tourne maintenant vers Vincent Smetana. Bonjour Vincent.
Bonjour Luc.
Vincent, votre mot pour dire... irait-il sur le registre du soin avec deux médecins et un chirurgien belge en plus?
On est bien d'accord, le médecin, parlons médecin, et médecin celui qui médecine, médecin médicinal, on pense médecin, on pense soigner, prendre soin, prendre cure, médicamenter, désinfecter, traiter, rétablir, arranger, guérir, bref, quelqu'un qui fait du bien là où il y a du mal, qui désabîme ce qui a été abîmé, qui désaltère ce qui a été altéré, qui recoue ce qui a subi assaut et à coup. Du coup, vous voyez, soigner me semble peu dire. Un médecin soigne et prend soin me semble trop léger pour dire ce qu'est un médecin. Peut-on donc envisager l'idée que le médecin répare? Peut-on envisager que réparer soit aujourd'hui le mot pour dire, hein?
Oui, en fait, certainement, on peut l'envisager, surtout avec Denis Mukwege, parce que j'imagine qu'il y a une petite allusion derrière ce mot.
Il y a une petite allusion derrière. Le médecin, dit-on de lui, le médecin qui répare les femmes, voilà ce qu'on dit de ce médecin-ci dont on parle ici ensemble aujourd'hui, et ce n'est pas peu dire, réparer. Réparer, c'est remettre en état ce qui a été endommagé. C'est au sens figuré, rétablir dans l'état précédent, c'est au sens moral, effacer, faire disparaître, les défauts, mettre la dernière main, parfaire ce qui a été remis en l'état d'origine, c'est donner des satisfactions proportionnées, des contreparties, des dédommagements au mal qui a été fait à ce qui a été abîmé, volé, violé, dézingué, outragé, réparé. Le mot splendide alors qui vient se loger dans nos manques, nos blessures, nos assauts, nos à-coups, nos outrages, réparer du latin reparare, préparer de nouveau. Si c'est pas beau, hein, juste de le dire, une femme a été abîmée, ce médecin la répare, la prépare de nouveau, lui rendant ainsi courage et dignité. Réparer pour dire aussi remettre debout, car quand on est brutalement abîmé, déformé, envahi, on s'affaisse, on s'écroule, on s'écrase de douleur et d'indignité. Alors savoir qu'on peut être réparé, déjà même cette idée nous répare, même un peu déjà, ce peu à peu qui fait reprendre souffle, voilà ce qui fait que ces femmes qu'il répare puissent peu à peu reprendre souffle, dessiller les yeux, se déployer à nouveau au vivant. La notion de réparer en philosophie interroge la possibilité de corriger des erreurs, qu'elles soient individuelles, sociales ou historiques, contextuelles. Ça implique de réfléchir aux limites de la réparation, à la nature de la justice. Et ça, c'est une foutue bonne question. Et à la relation entre le passé, le présent et l'avenir. Et ça, c'est une autre foutue bonne question. Hein.
Alors en même temps, c'est bien beau tout ça, bien joli et tout, Vincent. Mais alors essayons d'être réalistes quand même deux secondes au moins, comment réparer ce qui est souvent décrit, présenté comme irréparable.
Ouais, c'est bien joli de le dire. Comment se réapproprier son corps après un viol? Ah oui, je dis viol. Cet objet dans lequel je parle, c'est un micro. Alors appelons donc ce micro, micro. Appelons vos lunettes. Tiens, Jean-Luc, appelons votre gourde du Festival de Cannes. Donc, appelons un viol, viol. Pourquoi est-ce si difficile, si douloureux, si irréparable, a priori? Parce qu'il s'agit de violences qu'on inflige à la chair et plus encore au langage des corps. Il s'agit de dommages sévères, durables, considérables. Et par sa force destructrice, sa marque fiévreuse, sa trace baveuse, son empreinte coriace sur les corps, cette forme de violence met en péril la façon même d'habiter le monde et de nouer des relations avec les autres. Alors ici, je le dis, peut-être que réparer permet justement une nouvelle manière d'exister. Genre habiter à nouveau son propre corps et ainsi retrouver une place dans le monde. En somme, redevenir sujet quand on ne se sent plus que honte et plaie. En hébreu, dans la Bible, ce terme que l'on traduit en français par réparer évoque la brèche. Vous voyez, la fuite, genre la fuite dans le toit, la fissure, devenue faiblesse ou défaut. Et j'y viens car je désire y venir, in fine, réparer à l'image de Christ, à l'image d'un Jésus thérapeute qui réhabilite le langage fragile et contradictoire de nos trajectoires à l'intime. Prendre soin, j'y reviens, désinfecter, laver, penser, réparer, rétablir. D'ailleurs, rétablir, hein, quel beau mot aussi celui-ci, réparer l'humain et le rétablir, aider l'humain à se remettre en chemin, à se remettre du mal infligé, à se remettre en vigueur pour qu'elle et il puissent exister à nouveau, rejoindre le besoin brûlant de remettre, oui, le corps, tout comme le cœur, l'âme, la pensée, en situation de stabilité, de viabilité, là où une vie qui avait sombré dans l'inerte et l'impossible redevient vive et possible.
Jolie perspective. J'aime beaucoup aussi viabilité, la capacité à vivre. Merci Vincent. En tout cas, vos mots nous font aussi du bien, soit dit en passant, et peuvent ouvrir un nouveau possible. Et c'est aussi là sûrement un commencement de réparation. Et donc, Marie-Hélène Roux, Denis Mukwege, c'est le Muganga. C'est celui qui soigne, puisque celui qui soigne dit en fait ce que veut dire Muganga.
C'est oui, cela. En Swahili, Muganga, c'est... Il le dit, mais bon, c'est celle ou celui qui soigne. Donc, lui, en l'occurrence, c'est le docteur Mukwege. Donc, on a raccourci, c'est celui qui soigne. Mais c'est celui qui soigne au-delà du corps, qui soigne les esprits, les âmes. Et la réparation, comme vous en parliez, elle se fait non seulement sur le plan médical, mais il a une réparation qu'il dit holistique. Oui. C'est-à-dire qu'on prend soin des êtres, qu'ils ont non seulement une aide psychologue, qu'ils ont une aide juridique, qu'ils ont une aide même socio-économique. Donc il y a toute cette... tout ce chemin et toutes ces autres facettes dont il s'occupe. Donc c'est un homme qui est vraiment... est un sage.
Et puis il y a la dimension spirituelle, donc puisqu'il est aussi pasteur, c'est la foi en action avec lui d'une façon extrêmement concrète. Et dans votre film, alors, cette foi du personnage, elle est présente. Elle est certes discrète, mais en même temps essentielle. On comprend qu'il y a là la source dans laquelle il puise aussi sa force, son énergie, son envie. Comment avez-vous... vous, en tant que réalisatrice, aborder cette dimension protestante, entre guillemets, c'est pas facile de montrer la foi sans l'expliquer, sans faire un film, justement, qui serait axé sur ce sujet.
Je pense qu'on n'a pas besoin d'expliquer ce qui est. Et en fait, quand on passe du temps avec le docteur Mukwege ou quand on va à l'hôpital de Panzi, la foi, cette dimension... cette spiritualité, elle est présente dans tout. Mais elle est présente pas au niveau biblique, oui, mais elle est présente dans l'acte. Comment on regarde l'autre,
c'est ça, oui.
Comment on prend soin de l'autre.
Dans cette dimension holistique, justement.
Voilà. Et donc, pour moi, c'est, avec mon co-auteur, on n'a pas cherché dans le sens où c'était tellement présent qu'il n'y avait pas besoin de l'appuyer parce qu'elle faisait partie de cet être et du soin. Comme j'ai pu le voir.
Et c'est en tout cas comme ça que moi je l'ai réceptionné d'une certaine façon en tant que spectateur.
Oui, et je pense que l'idée n'est pas d'asséner une vérité, mais que tout à chacun peut se retrouver, je crois. Et c'est l'exemple qui est montré dans ces deux frères, j'aime bien parce qu'ils s'appellent mon frère, que ce soit le docteur Mukwege et Kadier, au-delà de leurs grandes différences, et ben ils sont unis, et par une dimension qui est plus grande.
Denis Mukwege a pu visionner le film, oui. Il sera là d'ailleurs dans quelques jours sur des avant-premières. Mm-hmm. Comment a-t-il réagi?
Il a, en tant qu'être éminemment... visionnaire, intelligent. Il a. Moi, j'étais, je pense, la plus stressée avec ma productrice parce que on touche à une responsabilité. C'est le prix Nobel de la paix. Mais il a vu le film et j'avais bien en amont je lui ai dit, c'est inspiré, ce n'est pas une biographie et d'avoir cette distance. Et en fait, il l'a eu. Il a pleuré 4 fois d'émotion et il nous a dit. Il a reçu tous les prix, il nous a dit à moi et ma productrice, j'ai reçu tous les prix. Je crois que c'est l'homme le plus récompensé au monde.
C'est ce qu'on dit, oui.
Aujourd'hui, je crois que la fiction peut faire changer le regard sur ce qui se passe et peut-être faire bousculer les choses.
Oui, parce que le besoin est toujours là quand même. C'est que
la situation est toujours, et malheureusement, si vous regardez l'actualité, c'est... Ouais. Kivu, il est en exil aujourd'hui, donc c'est toujours aussi tragique et on a besoin que la lumière soit mise et qu'on puisse parler de ce qui se passe en RDC. Malheureusement, on n'en parle pas assez.
Alors justement, comment vous qualifieriez ce film? Film politique, spirituel, universel?
Je dirais tout ça, mais s'il y a un mot qui me vient, c'est humaniste.
Ouais.
Parce que c'est la raison pour laquelle moi, j'ai voulu le faire pour me dire que l'art et des êtres qu'on met en lumière comme ça peuvent nous rendre meilleurs et peuvent changer la société. Et en tout cas, nous, un film ne va pas changer le monde, mais en tout cas, si on peut ouvrir le dialogue, si on peut faire que ces hommes et leur combat et la souffrance de ces femmes et leur courage soient mis en lumière, alors on n'a plus d'excuses, on ne peut plus être dans l'indifférence. Aujourd'hui, il faut pouvoir regarder ce qui se passe.
Eh bien, c'est avec ces mots que nous allons nous séparer. Merci beaucoup, Marie-Hélène Roux, pour cette œuvre sensible et puissante. Et puis, merci d'être venue dans cette émission.
Mais merci à vous de me recevoir. Merci.
C'est donc dans 10 jours, le mercredi 17 septembre, dans toutes les bonnes salles de cinéma, Muganga, celui qui soigne, réalisé par Marie-Hélène Roux, avec Isaac de Bancolé, Vincent Macaigne, Manon Brèche, Déborah Lukumwena ou encore Babetita Sadjo. Un film que je vous recommande évidemment extrêmement chaudement. Nous sommes aujourd'hui le premier dimanche de septembre et c'est traditionnellement aussi le jour de l'Assemblée du désert à Mialet dans le Gard qui cette année traitera du thème de la diversité des courants issus de la réforme. L'esprit souffle où il veut, anabaptiste, baptiste, évangélique, 500 ans d'une extraordinaire diversité protestante. Plusieurs temps proposés pendant cette journée, culte à 10h30, présidé par le pasteur Christian Krieger, président de la Fédération protestante de France. Je vous retrouverai d'ailleurs à 11h en direct ici même sur France Culture pour vivre ensemble ce culte. L'après-midi, on entendra sur place les allocutions historiques de Neil Blau et de Sébastien Fatt, deux intervenants éminents sur le sujet que vous pourrez entendre aussi la semaine prochaine dans cette émission, émission spéciale de Solae, le rendez-vous protestant 8h30 sur France Culture, qui sera enregistré dans la bergerie du musée du désert. Le message final aujourd'hui sera donné par Joël Suter Razana Johari, pasteur de la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France. Et on se quitte avec une artiste congolaise pour faire le lien aussi avec ce magnifique film. C'est Déborah Lukalu avec le titre « Consolé ».
Tellement à raconter, tant d'épreuves surmontées, et puis toutes ces années. Aujourd'hui tu m'as consolé. Oui, tu as vu mes larmes. Oui, toi seul as su me couler. Tu m'as donné ta main. Face au monde, je vais tout traverser. Et ma foi en toi a payé, oh. Et mes larmes t'a essuyé, oh. Plus de mauvais souvenirs. Oui, Jésus m'a visité. Je sais que la marche est longue. Mais moi je compte sur toi.
Mais moi je compte sur toi.
J'ai plus de raison d'avoir peur car Jésus, tu es mon bouclier.
Tu es mon bouclier.
Mes jours de pleurs sont passés. Et toutes mes blessures t'as pensé.
Hey, t'as su redonner le sourire à un cœur qui n'avait plus d'espoir.
C'était Solae, le rendez-vous protestant sur France Culture, proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Thomas Jost et avec Claire Levasseur à la prise de son. Émission à réécouter sur le site protestantpluriel.org, à tout moment sur celui de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. Je vous retrouve à 11h pour une heure de direct depuis l'Assemblée du désert à Mialet dans le Gard. Mais pour le moment, sur France Culture, c'est Talmudique, présenté par Marc-Alain Wachnin, juste après vos informations de 9h. Je vous souhaite un très bon dimanche à chacune et chacun.
Mais moi je compte sur toi.
Moi je compte sur toi.
J'ai plus de raison d'avoir peur car Jésus, tu es mon bouclier.
Tu es mon bouclier.
Les jours de pleurs sont passés. Et toutes mes blessures t'as pensé.
T'as su redonner le sourire à un cœur qui n'avait plus d'espoir.
Je sais que la marche est longue.
Je sais que la marche est longue.
Mais moi je compte sur toi.
Moi je compte sur toi.
J'ai plus de raison d'avoir peur car Jésus, tu es mon bouclier.
Tu es mon bouclier.
Les jours de pleurs sont
passés.
Et toutes mes blessures t'as